Pulson. Pulson, l'émission de la SAN, la Société d'Astronomie de Nantes. Bienvenue dans le monde des étoiles avec Pulson, l'émission radio de la Société d'Astronomie de Nantes. À la découverte de l'univers, le monde étrange des étoiles. Eh bien, bonsoir, chers amis. Comme tous les 15 jours, tous les lundis des semaines paires, nous voici en direct d'Alternante 98.1 à Nantes, 91 à Saint-Nazaire, à un quart d'heure de rotation de la Terre de Nantes, n'est-ce pas? Et nous allons vous parler ce soir de quoi? Eh bien, nous allons vous parler de trous noirs, car ça c'est une grande nouvelle. Il y a un gigantesque trou noir au cœur de la Voie lactée. Vous ne le saviez pas? Eh bien nous le savons, et nous allons entendre pour cela, autour de ce thème, Suzy Collin, qui est venue faire une conférence au mois de janvier. Également nos rubriques habituelles, le ciel du mois avec Pierre Simoneau, et les actualités astronomiques avec Fabrice Dumoy. Et donc en compagnie également avec nous ce soir Stéphane Legaille qui viendra nous rejoindre, Gaël Vincent tout à l'heure, pour parler de ce fameux trou noir au cœur de la galaxie. Et tout de suite, quelques petites nouvelles. Alors des nouvelles de Nantes, il n'y en a pas tellement en astronomie, mais est-ce que vous aimez le foot, mon cher Stéphane, mon cher Pierre?
Moi je m'y intéresse pas trop, mais enfin je crois qu'on peut pas passer à côté.
Pardon, j'ai utilisé un terme anglais, est-ce que vous aimez le pied?
Le football ou le football?
La balle au pied, voilà. Donc, alors si vous aimez la balle au pied, vous serez heureux d'apprendre que Nantes est champion de France. Alors quelque part sur une planète extrasolaire, effectivement, il y a une ville qui doit ressembler à Nantes avec des gens qui sont très contents d'avoir gagné un match de, je ne sais pas, de météorite au pied peut-être. Alors voilà, en ce moment, bien sûr, nous vous rappelons l'exposition à propos de météorites sur les météorites au Muséum d'Histoire Naturelle, qui se déroule effectivement jusqu'en juillet, et autour de laquelle nous avons quelques observations de la Lune, et la prochaine aura lieu début juin, le samedi 2 juin. Il y en a eu deux déjà, et il y avait malheureusement, il y aurait eu du monde, mais il n'a pas fait beau. Autrement, je vous annonce simplement un colloque qui aura lieu à Nantes le vendredi 8 et 9 juin, vendredi 8, samedi 9. C'est un colloque à l'initiative du Centre François Viette, qui est piloté en partie par notre ami Jacques Gapaillard, qui est historien des sciences, qui est mathématicien, professeur de mathématiques d'ailleurs, et qui anime ce centre François Viette. François Viette est un mathématicien vendéen, et c'est un centre d'histoire des sciences, le centre François Viette.
Et des techniques.
Des sciences et des techniques.
Histoire des sciences et des techniques.
C'est bien ça de dire, et des techniques, parce que c'est... On pourrait se demander à quoi servent les sciences, effectivement. Remarquez, pour moi, elles servent avant tout à rendre les gens meilleurs. Alors j'ai vu un reportage tout à l'heure à la télévision sur des déforestations, sur les gens qui veulent gagner beaucoup d'argent. Alors ce sont des usines qui se montent avec l'aide européenne pour contribuer à ravager notre planète. Je trouve ça formidable. Personnellement, à l'époque où nous sommes, en l'an 2001, eh bien nous n'avons pas fait beaucoup de progrès depuis le Moyen-Âge. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour les progrès humains. Alors... ce colloque début juin à Nantes, et puis bien entendu...
Sur l'histoire des observatoires.
Sur les... Oui, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mon cher. C'est... Sur l'histoire des observatoires. Et vous savez qu'à Nantes, il y a eu une période florissante en matière d'observatoires. Alors, évidemment, quand on parle d'observatoires, on pense surtout aux observatoires astronomiques. Ils l'étaient partiellement, mais à l'époque, on s'intéressait beaucoup, surtout dans les villes portuaires, à l'observation de la météorologie. Et donc, il y a eu des observatoires météo à Nantes, dont l'un... alors il y avait de la concurrence entre les observatoires, d'ailleurs, dont l'un d'entre eux était le relais de l'Observatoire de Paris, et l'un d'entre eux, l'autre, était le siège de la première société astronomique de Nantes en 1884. Mais ceci, c'est une autre histoire qu'on vous racontera un peu plus tard. Donc voici pour ces quelques nouvelles. Vous avez des nouvelles, Pierre, non ?
Non, pas, non, rien de particulier.
Et puis ni Stéphane. Eh bien, nous allons donc entamer notre premier sujet. Alors, je crois qu'on va vous donner quand même quelques nouvelles du ciel, hein, avec tout de suite Pierre Simoneau qui va nous parler du ciel du mois. Alors, mon cher Pierre, qu'y a-t-il de neuf en ce moment ? Qu'y a-t-il de neuf dans le ciel du mois ? Qu'est-ce qu'il y a dans que nous réservent les astres ce mois-ci ?
Eh bien, pas grand-chose. D'abord, merci de me passer le micro. Nous allons, comme d'habitude, faire le tour des planètes et de notre système solaire, ainsi que de la Lune, qui est notre meilleur point de repère. Je vous propose de procéder en deux étapes. Première quinzaine du 15 au 30 mai. Alors, dans l'ordre Mercure, à partir du 16 mai, c'est-à-dire demain, conjonction avec Jupiter, observable dans un crépuscule assez clair.
Ah, qu'est-ce que vous appelez conjonction avec Jupiter ? Il faut l'expliquer peut-être, hein. C'est quand Mercure est aligné avec, est dans le même axe que Jupiter ?
Quand Mercure est tout près du Jupiter. Ce qui était le
tout
cas,
près dans le champ de visée, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont
à quelques degrés de.
Voilà, ils sont pratiquement alignés lorsqu'on regarde.
Mais de l'autre côté de la Terre. Non ?
Non, bah, par rapport à la conjonction, conjonction, pas du tout. Hein. Alors, le deuxième, c'est Vénus. Elle est repérable à l'œil nu au ras de l'horizon, est, avant le lever du soleil. Au télescope, vous la verrez en forme de croissant mince. À faire avant 4 heures temps universel le matin, bien sûr, puisque le soleil va se lever aux environs des 4 heures. Mars, elle devient une cible de choix pour les astronomes amateurs. Elle devient grosse comme Saturne sans ses anneaux. Elle est en pleine période de rétrogradation qui, rappelez-vous-en, ne se produit que tous les 2 ans. La rétrogradation, en fait, c'est la sensation lorsqu'on l'observe que la planète fait marche arrière pendant un certain nombre de semaines pour reprendre ensuite sa progression normale. Jupiter, quant à elle, se perd définitivement dans l'heure du Soleil, donc plus d'observation de Jupiter à partir pratiquement du 15 de ce mois.
Et quand est-ce qu'on pourra le revoir, Jupiter, alors ?
Eh bien, ça va nous ramener
en automne,
en
non ?
Automne, à l'automne, ouais. Même d'automne, fin d'automne, début d'hiver. Alors,
qu'est-ce qu'on va observer cet été, alors ?
Alors, justement... Saturne, ben, il faut l'oublier, c'est pareil, il est dans une position plus défavorable que Jupiter, donc littéralement effacé par l'éclat du Soleil. Uranus ne peut être recherché le matin avant la fin, peut être recherché le matin avant la fin de la nuit, au-dessus de l'horizon sud, en fin de quinzaine.
Oui, mais alors là, pour Uranus, il faut vraiment connaître.
Il faut connaître.
Ça ressemble à une toute petite étoile.
Oui.
Il faut savoir où il est.
Alors, dito pour Neptune. Vers 1h30 en temps universel à l'horizon sud, est, et proche de celui-ci. Donc c'est pareil, il faut être bien équipé pour avoir des chances de le repérer. Je ne parlerai pas de Pluton, bien qu'il soit dans une position très favorable. Dans la constellation Ophicus, elle passe à 30 degrés de hauteur au milieu de la nuit.
Ophicus, c'est la constellation que les astrologues ignorent, hein,
c'est la 13e.
Ils ne savent pas que la Terre, que le Soleil passe dans cette constellation.
Alors, elle reste cependant un défi pour les possesseurs de même de gros instruments, parce que Pluton n'est pas difficile à repérer. La Lune sera donc nouvelle le 23 mai et le premier quartier le 29 mai.
C'est pour ça qu'on fait notre observation le 2 juin.
Voilà.
Voilà, pour avoir un petit bout de Lune, une partie qui va friser la zone d'ombre, là où les lumières sont rasantes et les ombres sont très longues.
Voilà. Alors ça, c'était pour la première quinzaine, entre le 15 et le 30 mai, du 1er au 15 juin. Donc Mercure, bien que présente dans le ciel du soir, n'est pas visible. Vénus continue à s'éloigner de nous. Elle a un diamètre apparent de 20 secondes, mais elle reste quand même très brillante. Mars, le 13 juin, est en opposition. Alors ça veut dire quoi qu'elle est en opposition ? C'est un alignement Terre, c'est un alignement Soleil, Terre, Mars. la Terre étant au centre de ces trois astres. La magnitude de Mars culmine à moins de 4 et son diamètre atteint 20,8 secondes.
Magnitude 4, ça veut dire plus la magnitude est petite. Pardon, c'est ça, oui, plus elle est petite, plus l'astre est brillant.
C'est brillant.
Donc, un degré de magnitude, c'est une variation d'éclat de 2,5 environ. Hein.
Ouais.
Et un astre de magnitude 5, il est 2,5 fois moins lumineux qu'un astre de magnitude 4. Et le Soleil, je crois que c'est moins...
Moins 27.
Oui. La Lune, c'est moins 14.
Et Pluton, ça doit être 11, 10,
c'est
11.
Plus, c'est 11, 12, et c'est un truc comme ça, oui,
et
c'est vrai.
À l'œil nu, on peut observer des astres qui vont jusqu'à la magnitude 6 à peu près, pour situer. Il me semble que c'est ça.
Ouais, c'est bien ça.
Donc, Mars est en opposition, donc intéressant à observer. Hein, si vous êtes intéressé par le dessin des planètes, alors à vos crayons, c'est le moment ou jamais, vous ne le verrez jamais Mars aussi gros qu'il va se présenter pendant, pendant cette période.
On vous en a parlé là dans des émissions précédentes, de cette opposition de Mars, qui, c'est pas l'une des plus belles, mais elle est déjà pas mal. Hein. Mars est deux ou trois fois plus gros qu'il est lorsqu'il est de l'autre côté.
Voilà, exactement. Alors, bon, on pourra en terminer, donc Jupiter, on ne le verra pas plus que Saturne. Uranus et Neptune sont toujours correctement placés pour l'observation en seconde partie des courtes nuits que nous avons actuellement. Pluton est également en opposition le 4 et se trouve à ce moment-là à plus de 4,4 milliards de kilomètres de la Terre. Donc, à vos instruments et aux gros instruments surtout. Quant à la Lune, elle est en conjonction avec Mars le 6 du mois de juin. Alors, en conclusion de toutes ces informations, retenez surtout l'opposition de Mars pendant laquelle photos, dessins pourront devenir de très beaux et bons souvenirs. Je vous souhaite ainsi que toute l'équipe de Pulsan de bonnes soirées d'observation, si le ciel le veut, vous le permette. À très bientôt.
Merci Pierre. Très très bien. Alors effectivement, on se souhaite des nuits... plutôt sans nuages.
Meilleure que celle que nous avons eue jusqu'à maintenant.
Voilà, sauf exception, évidemment. Et à vos jumelles, hein, ceux qui n'ont pas d'instrument d'astronomie, il ne faut pas hésiter, il faut apprendre à connaître le ciel comme ça, c'est merveilleux avec des jumelles. On peut voir déjà des myriades d'étoiles dans la Voie lactée. Surtout ceux qui habitent à la campagne, n'hésitez pas à sortir. Et si vous habitez du côté de Saint-Nazaire, allez voir nos amis du club c'est le club d'astronomie de la Presqu'île, hein. Qui se trouvent sur le... Ils font leur nuit d'observation sur le tumulus de
vers Alex, alors, si c'est par là, non? Le tumulus.
Oui, enfin, ouais, j'ai un trou de mémoire.
Saint-Nazaire.
Je suis vraiment honteux. Que la honte soit sur moi. Nos amis de Saint-Nazaire, j'espère qu'ils ne nous écoutent pas, mais que les gens nous écoutent. Essayez de les trouver. On va vous donner les coordonnées quand on les retrouvera. Voilà. Alors, nous allons passer à notre grand thème de ce soir. Alors... notre grand thème, justement, c'est autour de la conférence de Suzy Collin, conférence que Suzy donna le vendredi 26 janvier au Muséum d'Histoire Naturelle dans le cadre de la Semaine de l'Astronomie. Et nous avions fait venir cette grande astrophysicienne, d'ailleurs c'est pas la première fois qu'elle vient sous nos étoiles, puisqu'elle a déjà donné plusieurs conférences sous l'égide de la Société d'Astronomie de Nantes. Cette Suzy Collin que je présente rapidement, à moins que Stéphane voulait le faire, non ?
Bah, Suzy Collin, donc on l'a rencontrée avec Gaëlle un petit peu avant sa conférence, donc ouais. C'est toujours un moment sensationnel de rencontrer des personnes comme ça. Et puis,
on la présente en quelques mots quand même.
Oui, pas facile.
Hein, elle est astrophysicienne à l'Observatoire de Meudon, hein, de Paris-Meudon pour être précis, directeur de recherche au CNRS. Et c'est une dame qui est dans la recherche depuis les années 70, hein, donc... On va pas donner son âge, c'est pas bien, mais c'est une dame très active et qui a étudié depuis sa naissance dans la recherche, on pourrait dire, les quasars. Alors les quasars, ce sont ce qu'on appelait les quasi-stellars, radiosources autrefois, hein, tout simplement parce que c'était quasiment la forme d'une étoile, tout simplement parce que c'était très loin. En fait, ces objets sont des noyaux actifs de galaxies très lointaines, de telle sorte qu'on a l'impression de voir des étoiles. Alors, ce qui est aussi intéressant, vous le savez peut-être en astronomie, c'est que plus on regarde loin, plus on remonte le temps. Donc lorsqu'on regarde des objets qui sont à 10 milliards d'années-lumière, comme c'est le cas pour certains quasars, ou quasars, je sais pas comment on dit, eh bien, finalement, on remonte aux premiers âges de l'univers. Et donc ce qu'on voit, c'est un peu comme si on avait un œil qui pourrait nous reporter à l'époque des dinosaures. Vous voyez, c'est très intéressant puisqu'on voit directement ce qui l'univers tel qu'il était à ce moment-là. Donc ça, c'est déjà un premier intérêt. Donc pour la cosmologie, donc elle a d'ailleurs publié un livre là-dessus, Aux confins de l'univers, les Quasars. Suzy Collin aussi, entre autres, elle a un très riche palmarès. Elle est aussi présidente de l'Association française d'astronomie et d'astrophysique. Et donc là, elle s'intéresse depuis quelque temps à ce trou noir géant qui est dans le cœur de la galaxie, de notre galaxie, la Voie lactée. Alors ça pourrait paraître effrayant, mon cher Stéphane, mais en fait, un trou noir, c'est pas forcément quelque chose de très aspirateur, hein, c'est pas forcément très glouton, ça peut être gentil, enfin c'est jamais très gentil, mais en tout cas, celui-là, il va pas nous manger demain. Alors, on peut peut-être rappeler rapidement ce que c'est un trou noir avant de passer à l'interview, ou à moins que Suzy l'explique dans l'interview.
Bah, un trou noir, déjà, pour situer un petit peu les choses, pourquoi est-ce qu'on utilise l'adjectif noir? Ça fait peut-être penser à... Bon, la lumière blanche, elle contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le noir, c'est l'absence de couleur. Donc, c'est-à-dire que...
Sauf au Portugal, hein. Ou même le noir est couleur, hein, j'ai vu ça dans les publicités. Ah. Oui.
Donc, un trou noir, par définition, on ne le voit pas, puisqu'il absorbe tout en fait à son passage, quoi. Alors on expliquera peut-être un petit peu plus en détail la physique de ces monstres.
Oui, on reviendra bien sûr dessus, ouais. À propos entre les différentes parties, voilà. De l'interview.
Donc déjà un peu, bon, la première chose, c'est qu'il doit avoir en fait une masse énorme et qu'ensuite il absorbe tout à son passage. Donc la grande difficulté, c'est de le voir. On peut pas voir un trou noir, même si maintenant il y a certaines théories quand même qui montrent qu'un trou noir diffuse quand même un petit peu de lumière.
Ouais, il diffuse pas la lumière qu'il émet, plutôt il provoque des phénomènes, voilà, violents. Voilà. Ces parages, et ouais. C'est ça qu'on voit en fait,
hein, disons que donc on va peut-être essayer aussi de donner des généralités, puis peut-être aussi de casser l'image d'Épinal du trou noir invisible que l'on peut détecter. Alors on verra comment est-ce qu'on peut détecter un trou noir, puisque en fait c'est le gros problème.
Tout à fait. On peut rappeler aussi qu'un trou noir, d'abord, c'est une étoile. C'est une étoile en fin de vie. Et en fait, il y a trois types d'étoiles. Hein. Il y a les toutes petites étoiles. Vous savez qu'une étoile, quand elle devient étoile, tout simplement parce que c'est une masse de gaz et qui se comprime par effondrement sur elle-même. Et puis, il arrive un moment où les atomes d'hydrogène, essentiellement, sont tellement comprimés dans le cœur de l'étoile qu'ils fusionnent, qu'ils se soudent, en quelque sorte, pour donner des noyaux d'hélium. Et cette réaction thermonucléaire, parce que c'est une bombe atomique, hein, faut le dire, eh bien ça dégage une énergie colossale qui est proportionnelle à la masse qui est absorbée, donc c'est la fameuse équation E égale MC2. Hein.
Et sans ces explosions colossales, en fait, une étoile ne pourrait construire qu'au maximum du fer. Alors si on regarde dans le tableau de Mendeleïev, au-delà du fer, il y a quand même tout un tas d'autres éléments qui en fait ne sont présents sur Terre que à cause d'explosions fantastiques qui ont...
Alors on n'a pas encore parlé d'explosion, hein, puisque pour l'instant l'étoile elle se forme, elle rayonne, on est content. Et quand l'étoile est trop petite, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va continuer, à un moment donné, il n'y a plus assez d'hydrogène pour alimenter le rayonnement, pour contrebalancer en quelque sorte la pesanteur. Et là, l'étoile s'effondre une dernière fois. Ça donne, pour résumer, une naine blanche. C'est une étoile très, très petite qui rayonne faiblement une lumière, une pâle lueur blanche.
C'est ce que notre soleil...
C'est ce que probablement le soleil deviendra, oui. Et dans 4 milliards d'années ou 5 milliards d'années, on a encore le temps. Alors la deuxième catégorie d'étoiles, c'est celle qui explose, hein. C'est des fameuses supernovas. Pourquoi? Ben parce qu'elles sont un peu plus grosses que les autres. Et en fait, lorsqu'elles s'effondrent, elles finissent par allumer une deuxième série de réactions nucléaires, la fusion de l'hélium, et clac, ça repart pour un tour, mais ça va beaucoup plus vite. Et alors elle devient pulsante, elle passe par les phases de géante rouge. Ben, la première catégorie aussi, d'ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'elle va gonfler, devenir plus froide, donc plus rouge, et puis après elle s'effondre à nouveau, etc., etc. Jusqu'au moment où elle va tellement, ça va s'effondrer tellement violemment que ça va faire partir les couches extérieures, elle explose. Et enfin, la dernière catégorie, ce sont les étoiles encore plus massives, qui finalement vont s'effondrer tellement et vont devenir tellement denses, que même la lumière va être piégée. La lumière qui est émise par l'étoile va retomber dessus. Pour résumer, pour clore un peu le chapitre général, vous savez que la vitesse de libération sur Terre est de 11 km secondes. Ça veut dire que si vous dépassez, si vous sautez en l'air à plus de 11 km secondes, vous allez vous mettre en orbite. Alors, pour s'échapper de la Terre, il suffit de 11 km secondes.
Pour se satelliser, c'est 8 km par seconde, c'est un peu moins.
Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que la lumière fait 300 000 km à seconde. Alors, il y a des étoiles où la vitesse de libération est supérieure à 300 000 km secondes. C'est-à-dire que même la lumière, eh bien, elle n'arrive plus à s'échapper de l'étoile. Donc, on ne la voit pas. Ce sont les fameux trous noirs. Alors, évidemment, il y a toute une série de choses que l'on peut dire autour des trous noirs au point de vue théorique, mais en résumé, c'est un peu ça.
Alors, peut-être, avant de commencer, moi, j'aurais une petite précision au niveau historique. Est-ce que vous savez quand l'idée de trou noir est apparue ? Au niveau historique. Peut-être pas le mot trou noir, mais du moins le concept.
Allez, on va dire 1850.
Eh bien non, moi j'ai trouvé, c'est en 1784, John Mitchell, et puis ensuite aussi en 1796, Pierre-Simon de Laplace, qui est donc,
bien sûr.
Qui est donc très connu, ah. et Pierre-Simon de Laplace qui a introduit le concept d'astre occlus, avant de parler de trou noir, dont effectivement il parlait déjà de vitesse de libération qui serait par définition supérieure à celle de la lumière. Donc ça date déjà d'il y a plus de 200 ans.
Oui, parce que la vitesse de lumière, on l'avait approchée au XVIIe siècle, hein, déjà. Voilà. Alors, je pense que, à moins que tu aies quelque chose à ajouter sur Suzy Collin ou sur trou noir,
moi, je pense qu'on peut
on va donc lui donner la parole à Suzy Collin. Donc, c'était en janvier de cette année.
Alors, Suzy Collin, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Suzy.
Bonsoir.
Alors, nous sommes heureux, bien sûr, de vous recevoir à nouveau pour cette semaine de l'astronomie, une de plus. Et je dois dire, c'est toujours pour notre plus grand bonheur, car vous avez beaucoup travaillé sur des sujets qui sont à l'honneur aujourd'hui, puisque avec les moyens dont on dispose actuellement, on va de plus en plus loin dans l'univers, on sonde de plus en plus profond, et on connaît de mieux en mieux cet univers qui nous entoure. Et vous êtes une spécialiste des galaxies, en tout cas du cœur des galaxies, d'objets très lointains, quelquefois comme les quasars. Alors ce soir, vous n'allez pas nous parler des quasars, mais des trous noirs géants au cœur des galaxies. Alors ça, c'est un peu... c'est pas étrange pour les astronomes, puisqu'on savait qu'il y avait des trous noirs et qu'il en y avait forcément dans les galaxies. Et là, on a appris qu'il y avait des trous noirs géants dans le cœur des galaxies et peut-être dans la nôtre. Donc ça peut être très inquiétant. C'est peut-être pas inquiétant du tout, vous allez nous le dire. Et en tout cas, rappelons peut-être en quelques mots ce que c'est un trou noir. En quelques mots pour situer le sujet.
Alors en quelques mots, on peut dire que c'est un objet à la surface duquel la vitesse de libération est égale à la vitesse de la lumière. Alors naturellement, c'est une définition que n'accepterait pas quelqu'un qui serait spécialiste de relativité générale.
Oui, mais ça situe bien les... Voilà. Ça veut dire que la lumière qui essaierait de s'en échapper, si cette étoile rayonne, elle retombe dessus.
Voilà, et très exactement.
Donc on ne peut pas voir de tels objets.
C'est pour ça qu'on les appelle les trous noirs.
Voilà, tout à fait. Alors évidemment, ça correspond aussi à beaucoup de choses en physique très, très contemporaines. Il n'y a pas vraiment de définition satisfaisante, mais en tout cas, on sait que maintenant que ce sont des objets qui occasionnent une gravité très importante.
Absolument, ça c'était de toute façon déjà prévu par la théorie depuis très longtemps, et on a découvert ce type d'objet dans des étoiles, dans le cœur d'étoiles doubles dont on peut observer les mouvements relatifs, et ces mouvements relatifs permettent d'estimer la masse des deux étoiles. C'est assez compliqué, mais on y arrive. Et lorsque la masse de l'une de ces étoiles, qui est celle qui rayonne dans le domaine des rayons X, est plus grande que trois masses solaires, eh bien, on en déduit que nécessairement, il s'agit d'une étoile qui est une étoile compacte en fin de vie et qui a en fait atteint l'état de trou noir. Après avoir explosé sous forme d'une supernova. Oui.
Elle évoluera en trou noir ou c'est déjà un trou noir ?
C'est déjà un trou noir.
Ah oui, alors ce qu'on voit, c'est pas le trou noir lui-même, c'est ce qu'il occasionne sur la matière qui
l'entoure.
Absolument.
Ce trou noir, ayant une gravité forte, attire la matière du compagnon, et c'est la matière du compagnon qui rayonne arrivant près du trou noir, et elle est portée à des températures très élevées, et ces températures très élevées se traduisent par un rayonnement dans le domaine des X. Donc on voit ces objets comme des objets qui rayonnent, qui sont très brillants dans le domaine X. On les a découverts maintenant il y a presque 30 ans, justement avec les premiers satellites.
Au siècle dernier, par conséquent.
Au siècle dernier, oui, exactement. Et donc, ces objets qui sont des trous noirs stellaires, on sait maintenant, on est sûr qu'ils existent dans notre galaxie.
Oui, parce que j'allais vous poser la question, est-ce qu'on en a trouvé, est-ce qu'on en a vu ? Vous venez d'y répondre. Donc, c'est vrai que ces objets qui étaient prévus par la théorie de la relativité ont été réellement, on peut le dire, observés.
pratiquement observé, on peut
alors,
dire.
Alors, il y a peut-être, effectivement, il y a peut-être des trous noirs. Alors, on a parlé de mini-trous noirs, certains parlent même de micro-trous noirs, et puis il y a les trous noirs géants. Et alors, il y a ces trous noirs au cœur des galaxies. Est-ce que tout cela, c'est la même famille d'objets, ou est-ce qu'il y a des catégories ?
Non, c'est la même famille d'objets dans la mesure où un trou noir, c'est quand même quelque chose d'extrêmement simple puisque on ne sait pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur et c'est défini uniquement par deux ou trois quantités, c'est-à-dire la masse, la rotation et le champ électrique. Donc tous ces objets, qu'ils aient une fois la masse du Soleil ou bien un milliard de fois la masse du Soleil, ont les mêmes caractéristiques exactement, à savoir une forte gravité et la lumière qui ne peut pas en sortir.
Mais alors, ces trous noirs supermassifs que l'on trouve au cœur des galaxies, on a dit qu'ils sont de la même famille que les trous noirs qui sont issus de l'effondrement du cadavre stellaire d'une étoile en fin de vie, d'une étoile massive. Oui. Maintenant, si on s'intéresse à l'origine de ces deux familles de trous noirs en quelque sorte, ce n'est pas la même origine pour un trou noir supermassif au centre d'une galaxie. C'est pas une étoile énorme qui s'est effondrée et qui a constitué le centre d'une galaxie.
Mais, l'origine
n'est pas la même, c'est ça ?
A priori, on n'en sait rien.
A priori, on n'en sait rien, parce qu'il est tout à fait possible qu'au moment où se sont formés les cœurs des galaxies, il y ait formation d'une espèce d'étoile supermassive qui, par la suite, se soit effondrée sous forme d'un trou noir. Il est aussi possible qu'on ne soit pas passé par ce stade d'étoile supermassive, mais simplement que le gaz soit tombé sur un petit trou noir qui, peu à peu, a accrété ce gaz qui arrivait et a grossi. Auquel cas, ce n'est pas tout à fait le même mécanisme, effectivement, que l'étoile qui s'effondre. Mais pour le moment, c'est une théorie qui n'est pas encore élaborée. On ne sait pas vraiment comment se sont formés au départ les trous noirs. On sait comment ils peuvent grossir par la suite, une fois qu'ils ont déjà acquis une certaine masse. Mais pour acquérir cette masse, eh bien, c'est encore à faire.
Oui, alors venez d'entendre donc Suzy Collin, interviewée le 26 janvier dernier avant sa conférence au Muséum, dans le cadre de la Semaine de l'Astronomie. Et alors là, Suzy Collin aborde le sujet, bien sûr, en rappelant un peu ce que c'est un trou noir, les différentes catégories de trous noirs. Et effectivement, on voit que ce sont des objets finalement physiquement assez simples. Hein. Stéphane, est-ce qu'il y a un petit commentaire avant la deuxième partie de l'interview ?
Je pense qu'on peut retenir déjà que, d'après ce que nous dit Suzy Collin, que pour avoir un trou noir, il faut au moins une masse de trois fois la masse solaire.
Oui, plus de trois fois la masse solaire, effectivement. Bon. C'est pas vraiment très éloigné de la masse solaire. Hein. C'est trois fois plus gros.
Oui,
c'est pas non plus des objets fantastiques.
Alors, pour situer le Soleil, c'est 2 fois 10 puissance 30 kg, quand même.
En tonnes, ça fait combien, ça?
C'est-à-dire, c'est 2 suivi de 30 zéros pour donner les kilogrammes, donc ça fait quand même déjà énorme. Enfin bon, à une échelle astronomique...
27 zéros pour donner des tonnes.
Voilà.
Ça fait 3 fois 9, ça fait 3 milliards... Ça fait des milliards de milliards de milliards de tonnes.
Voilà. Donc déjà, ça permet de situer un petit peu les choses, quoi. Ensuite, les caractéristiques communes que nous dit Suzy Collin, c'est une gravité importante et une vitesse de libération supérieure à la vitesse de la lumière. Pour l'instant, en fait, on en est là.
Voilà, c'est très bien. Donc nous allons entendre la suite de cette interview. Donc tout de suite, Suzy Collin interviewée donc, par moi-même et puis Gaël Vincent et Stéphane Legas.
Quand on observe loin le ciel profond, à différentes distances, on observe différentes époques de l'évolution de l'univers, et notamment aux confins de l'univers, certains objets qu'on appelle les quasars, des galaxies, des sortes de petites galaxies extrêmement actives.
Des noyaux de galaxies, peut-être, c'est ça, non ?
Peut-être.
Alors, peut-être. Ça permet finalement de reconstituer l'arbre généalogique des galaxies. Alors, est-ce qu'on peut dire, on peut trouver en quelque sorte un chaînon manquant entre les quasars et les galaxies actuelles et dire que finalement, il y a une sorte de dilution de l'énergie à l'intérieur des galaxies et que maintenant, il y a eu l'apparition des étoiles et que ce n'est plus un rayonnement uniforme comme au temps des quasars. Est-ce que maintenant, on a pu passer des quasars aux galaxies proches, actuelles?
Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. En fait, on arrive à observer des quasars jusqu'à des distances qui sont de quelques milliards d'années-lumière, presque jusqu'à 10 milliards d'années-lumière. Et quand on observe ces quasars, on s'aperçoit qu'il y a en fait non seulement le noyau, quelque chose, un objet ponctuel très brillant qui était ce qu'on appelait le quasar dans le temps, mais qu'il y a autour une sorte de galaxie qui ne ressemble pas réellement aux galaxies qu'on voit près de nous, parce que c'est une espèce d'amas informe, très perturbé, en général de deux galaxies qui sont en interaction. Donc on a l'impression que ce qui favorise l'éclosion du quasar actif, c'est réellement l'interaction de galaxies, avec des galaxies, l'interaction de plusieurs galaxies. Alors si on observe des quasars de plus en plus proches, on voit que cette tendance à être dans des galaxies extrêmement perturbées devient moins grande, et peu à peu ça se normalise, et on tend finalement dans les quasars qui sont proches à retrouver pratiquement des galaxies qui sont des galaxies elliptiques, ou des galaxies en général des galaxies elliptiques d'ailleurs, assez normales. Donc la séquence qu'on pourrait imaginer, c'est que depuis la formation des quasars à des très grandes distances, et là on ne peut pas les observer réellement, on peut observer seulement une source ponctuelle, eh bien, on a eu des ramasses, le quasar a ramassé des galaxies, et puis peu à peu, la galaxie s'est formée, a acquis sa forme habituelle, peut-être sans qu'il y ait la moindre intervention du trou noir central. Le trou noir central, là-dedans, est peut-être un phénomène secondaire, disons. On n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'est certainement formé dans le passé avec la formation des premières galaxies, mais on n'est pas du tout sûr qu'il ait eu la moindre influence sur le développement de la galaxie elle-même. Hein ? Par contre, la galaxie elle-même a eu une influence sur le développement du trou noir.
Alors, on a reçu avant-hier Jacques Lascar qui nous a parlé du chaos. Et donc pour lui, en fait, son cadre de pensée, c'est la théorie de Newton, et la relativité générale, pour lui, rajoute un petit peu de précision, quelques secondes de précision au niveau des mesures. Qu'est-ce que vous pensez, vous ?
Ah bien, dans son travail à lui, c'est certainement le cas. Dans ce qui nous préoccupe, à savoir les trous noirs, la relativité générale est totalement indispensable. Et par exemple, il y a des observations qui ne peuvent pas être interprétées, pense-t-on, c'est un peu controversé, autrement qu'en faisant intervenir la relativité générale. Alors, c'est un petit peu difficile à expliquer. C'est l'observation, par exemple, de la forme d'une raie spectrale qui est formée très très près du trou noir. Enfin, c'est l'interprétation qu'on donne à cette forme qui est très perturbée. On observe dans le domaine des rayons X une en particulier raie spectrale intense, et cette raie spectrale elle a un profil, une forme qui est très particulière parce qu'elle est très très dilatée vers le rouge, vers les grandes longueurs d'onde. Et on interprète à l'heure actuelle cette dilatation vers les grandes longueurs d'onde comme étant due à un effet gravitationnel, les photons ayant du mal à s'extraire de l'environnement très proche du trou noir. Et en fait, l'hypothèse qu'on va jusqu'à faire maintenant, c'est que cette raie spectrale est formée dans un gaz qui est très proche du trou noir, à pratiquement à la surface, à l'horizon du trou noir, à un ou deux fois le rayon de l'horizon du trou noir. Et si effectivement c'est le cas, ben on ne peut pas interpréter autrement le profil de cette raie que par en faisant intervenir la relativité générale. La relativité restreinte n'est même pas suffisante pour interpréter ce profil.
Alors la relativité suppose aussi qu'un trou noir rayonne quand même un peu, et que plus il est petit, plus il rayonne.
Oui, alors ceci...
Est-ce qu'on pourrait les voir par ce biais-là ?
Les gros trous noirs dont je parle, certainement pas, parce que le rayonnement qu'ils peuvent émettre par ce processus qui est, je suppose, celui auquel vous faites allusion, et le processus décrit par Stephen Hawking, ne concerne que des micro-trous noirs, et quelque chose qui n'atteint pas l'échelle du macroscopique. C'est exactement comme le cas de la mécanique quantique qu'on ne peut pas appliquer à l'échelle macroscopique.
Voilà, vous venez d'entendre la deuxième partie de l'interview de Suzy Collin, astrophysicienne, au mois de janvier dernier dans le cadre de la semaine d'astronomie, qui nous a parlé donc de trous noirs, et là elle est allée un petit peu plus loin, elle a effectivement donné par exemple une hypothèse sur l'origine de ces trous noirs, qui serait liée à ce qu'elle appelle l'interaction entre des galaxies, c'est-à-dire en fait la collision de galaxies, et on a entendu beaucoup de choses, Stéphane, là, au cours de cette partie-là. Juste un mot, on a parlé de relativité restreinte, ça c'est le terme français, Einstein n'a jamais parlé de relativité restreinte. Il avait parlé de relativité spéciale. Il y a une petite nuance, hein, je crois. Est-ce que toi, tu as pris beaucoup de notes, tu as donc relevé des petites choses intéressantes au cours de cette partie ?
En fait, moi, ce qui m'avait marqué pendant cette semaine de l'astronomie, c'était le lien entre les différentes conférences, notamment celle de Jacques Lascar, qui lui...
C'est ce que tu dis au cours de l'interview.
Voilà, c'est ce que je dis donc au cours de l'interview, qui en fait n'estimait pas que la relativité générale pouvait apporter beaucoup plus. Or, en fait, on voit avec Suzy Collin que la relativité générale, en fait, est indispensable pour expliquer certaines choses. Donc elle parle d'une raie spectrale dans les rayons X. Bon, en fait, je pense que la relativité générale, même à un niveau, on pourrait même presque dire philosophique, mais à un niveau scientifique profond, apporte quelque chose, évidemment, notamment sur la structure de l'espace et du temps et de l'espace-temps, en général. Donc, moi j'étais un petit peu mitigé sur certaines choses, mais c'est un avis purement personnel, hein.
Oui, puis on a parlé de photons, alors évidemment, cette vision particulière, sous forme de particules, n'est-ce pas, de la lumière. Alors ce ne sont pas des particules, hein, ce sont des quantums d'énergie, alors c'est tout un des quantas, comme on dit. Donc il y a beaucoup de choses. On va d'ailleurs vous parler de ce genre de choses, parce qu'à la SAN, on a créé un groupe de réflexion théorique, il va peut-être en sortir quelque chose de
sur des choses qui sont pas forcément évidentes, qu'on enseigne telles quelles, mais rien que d'expliquer ce qu'est un photon.
Voilà. Bon. Nous, on a envie de comprendre, c'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter du discours. Évidemment, Suzy Collin, elle a beaucoup intégré ce langage et ces concepts, et pour le grand public, ça reste encore un petit peu une espèce d'alchimie. Alors, on les écoute, on les croit, hein, volontiers,
mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé,
on aimerait comprendre mieux, d'ailleurs.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, en l'interviewant, c'est à la fois donc, sa grande culture, sa grande richesse, et aussi sa grande humilité, ouais. Puisque elle a terminé en disant que, bon, il y a des choses que pour l'instant, elle ne sait pas trop.
Oui, ça c'est bien aussi.
Elle ne s'estime pas spécialiste de la relativité générale, alors qu'elle manipule ça tous les jours. Donc moi, je trouve ça très très bien.
C'est bien d'être comme ça. D'ailleurs, ce sont des scientifiques très honnêtes, en général, ceux que nous aimons faire venir. Eh bien voilà, nous allons, pour vous reposer un petit peu, mais alors on va rester dans les trous, mon cher Stéphane. Alors là, c'est un gentil gag qu'on vous propose. Oh. C'est pas un gag, c'est une vieille chanson française et tout à fait dans le ton. Vous savez qu'il y a des gros trous noirs, hein, et il y a des petits trous. Des petits trous et encore des petits trous et rien que des petits trous. Et vous savez qui a fait la chanson? Ben, on vous le dira après, hein. Alors, allons-y pour les petits trous.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier, moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Les petits trous par Serge Gainsbourg. Alors ça, c'était tout à fait, c'est très amusant avec le thème des trous noirs, mon cher hein, Stéphane. Alors on se demande qui a poinçonné le cœur de notre galaxie, quand même. Hein, quel est celui qui a fait un trou noir, bien entendu, car dans le ciel les trous sont noirs et ailleurs ils peuvent être blancs aussi, les trous blancs, n'est-ce pas? Alors, nous avons parlé de trous noirs, ou plutôt Suzy Collin, notre astrophysicienne interviewée au mois de janvier dernier, nous parlait justement de ces trous noirs et de ces fameux trous noirs dans le cœur des galaxies. Avec finalement, on savait relativement peu de choses, mais on sait en tout cas qu'il y a un trou noir dans le cœur de la Voie lactée, c'est-à-dire chez nous, hein, et un gros. Alors, elle va nous en dire beaucoup plus maintenant dans cette deuxième partie, cette troisième plutôt partie de cette interview de Suzy Collin. Donc, annonçons cette interview de Suzy Collin. Donc, Suzy Collin interviewée le 26 janvier dernier, le vendredi 26 janvier, avant sa conférence au Muséum d'Histoire Naturelle, dans le cadre de la semaine de l'astronomie.
Et on l'a interviewée avec son mari Jean-Paul Zanne.
Qui avait fait la conférence du lendemain, oui. Voilà. Tout à fait, oui. Ce sont des jeunes mariés, ils sont mariés il y a deux ans, je crois, trois ans. ils sont adorables. Donc, interview réalisée par Stéphane Lega et Gaël Vincent, qui viendra nous rejoindre tout à l'heure.
Le trou noir supermassif de notre galaxie, il a bien été découvert dans le Sagittaire, c'est ça ? Dans la
c'est
constellation
ça.
Des Sagittaires.
Oui, c'est ça, dans la constellation du Sagittaire. Et la source qui porte le nom, enfin qui, dans lequel se trouve ce trou noir, c'est une source radio, donc dans le domaine des ondes radio, qui s'appelle Sagittarius A étoile. D'accord. Et c'est là-dedans qu'on suspecte que est la masse centrale qu'on a détectée par des moyens très très intéressants et très compliqués, enfin surtout qui ont mis en œuvre du travail sur une quinzaine d'années, on a pu détecter l'existence d'une masse noire de l'ordre de 2 millions de fois la masse du Soleil.
Est-ce que, par exemple, dans le cas de notre galaxie, ce trou noir supermassif régit un peu la galaxie entière? Est-ce que ça orchestre un petit peu, gravitationnellement parlant, toutes les étoiles autour, comme le Soleil orchestre les planètes?
Eh bien, ça orchestre effectivement les étoiles qui sont autour, absolument, mais dans un rayon qui est relativement qui est limité. Et le rayon est environ de l'ordre de une année-lumière. Et autour de dans cette année-lumière, eh bien, les étoiles manifestent des mouvements. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a découvert l'existence de ce trou noir. Ont des mouvements très importants qui sont dus à la gravitation du trou noir. Mais au-delà, eh bien, il n'y a plus d'influence du trou noir, et sauf éventuellement par l'intermédiaire de vents qui seraient éjectés au voisinage du trou noir et qui se manifestent sous forme de gaz qu'on observe à quelques dizaines d'années-lumière du centre de la galaxie avec des mouvements importants de l'ordre du millier de kilomètres par seconde. Mais on n'est même pas sûr que ça soit vraiment l'intervention du trou noir là-dedans.
Donc si j'ai bien suivi, j'ai un peu moins de crainte que le trou noir au cœur de notre galaxie nous avale un jour. Est-ce que c'est du domaine du possible ?
Je ne crois pas que ceci soit effectivement possible, mais par contre, il est tout à fait imaginable que le trou noir au centre de notre galaxie, que nous ne voyons pas du tout et qui a vraiment une activité complètement négligeable à l'heure actuelle, soit réactivé un jour, simplement par exemple un nuage moléculaire qui tomberait dedans, ou bien si une galaxie se rapproche de la nôtre et arrive à créer des mouvements importants qui drainent la matière jusqu'au centre de la galaxie, eh bien on peut envisager que notre galaxie elle-même devienne une galaxie active entièrement dont la luminosité, la puissance serait entièrement dominée par le trou noir, et là on le verrait vraiment rayonner presque comme un soleil à ce moment-là.
Voilà, donc troisième partie de cette interview de Suzy Collin. Alors là, elle va un peu un peu plus dans le cœur du sujet, si je puis dire, parce qu'on parle du trou noir géant dans le cœur de la galaxie. On donne même une idée de l'endroit où il a été détecté, hein, dans la direction du Sagittaire. Pour les astronomes amateurs et les autres d'ailleurs, on sait que le Sagittaire, ça donne à peu près la direction du centre de la Voie lactée. Hein. C'est un bon repère. Alors l'étoile qu'elle a citée, je ne la connais pas. Ce trou noir a une masse de 2 millions de fois celui du Soleil. Donc on est quand même dans des... Alors si initialement il suffit de 3 masses solaires pour faire un trou noir... En fait, après, il doit grossir, il doit avaler un peu ce qui l'entoure. Alors, une chose qui est rassurante, c'est que finalement, il ne va pas nous avaler, en tout cas pas si tôt. Et son rayon d'action, c'est à peu près une année-lumière. Pour situer les idées, le champ gravitationnel, disons que la taille du système solaire, le rayon, c'est 5 heures-lumière. Alors là, c'est quand même le rayon du trou noir au centre de la galaxie. Son influence gravitationnelle s'étend jusqu'à une année-lumière, ce qui est quand même pas si mal que ça.
Pour une galaxie qui a en fait une longueur de 100 000 années-lumière.
Oui, en fait, ça fait un 100 000e. C'est un pourcentage tout à fait ridicule. En effet, oui, parce qu'on s'imaginait que c'était beaucoup plus gros. Hein. Ouais. Alors Gaël nous a rejoint, donc
bonsoir à tous. Après la musique voilà, céleste.
Il vous souhaite toujours bonsoir quand il arrive, c'est très très gentil. Donc il a réalisé donc avec Stéphane, moi-même un tout petit peu cette interview, donc il va pouvoir effectivement intervenir également dessus. Mais je pense qu'avant cela, à moins qu'il y ait quelque chose à dire tout de suite, on va passer à la dernière partie de cette interview.
Oui. Hein.
Parfait, donc quatrième et dernière partie de l'interview de Suzy Collin.
Une dernière question, messieurs.
Une toute dernière question. On parle de, pour parler d'un autre type d'amas d'étoiles, les amas globulaires. Est-ce que ces amas d'étoiles qui sont en satellite autour de galaxies principales, galaxies spirales comme la nôtre par exemple, est-ce que ces amas globulaires ont aussi, comme un autre type d'amas globulaires comme les galaxies, ont aussi un trou noir dans leur centre? Est-ce qu'on a pu en détecter un?
Alors, effectivement, la question est tout à fait pertinente parce que ces amas globulaires, ils ont au centre des étoiles ou une étoile binaire, un couple d'étoiles qui semblent particulièrement massifs et qui sont probablement des trous noirs pour beaucoup d'entre eux. Mais des petits trous noirs comparés aux trous noirs dont je vous ai parlé, hein, peut-être d'une dizaine de masses solaires. Mais en tout cas, ça semble exister dans pratiquement tous les amas globulaires.
D'accord. Moi, j'ai aussi une dernière question à propos des trous noirs. Est-ce qu'on peut détecter un trou noir même s'il n'a pas de compagnon? Puisqu'a priori, le but, c'est d'avoir une étoile binaire dont l'une des deux composantes est un trou noir.
Alors, on peut probablement pas le détecter s'il est tout seul dans la galaxie, parce que la matière interstellaire qui se trouve autour est très ténue et ne peut pas l'approvisionner suffisamment. Il faut vraiment qu'il ait à sa proximité une étoile, en général géante, qui soit attirée, enfin dont la matière, dont l'enveloppe soit attirée par lui. Par contre, les trous noirs dans les galaxies, au centre des galaxies, eux, ils ont de la matière, du gaz qui est présent là, parce que c'est une région très riche en gaz. Donc ceux-là, on les voit parce qu'ils ont du gaz autour, mais je pense qu'on ne peut pas voir un trou noir isolé dans la galaxie, une étoile sous forme de trou noir, parce que il lui manquera de quoi rayonner. Par contre, il existe peut-être, et il en existe peut-être même beaucoup.
Donc finalement, un trou noir, quel que soit son type, qu'il soit intragalactique ou d'origine stellaire, c'est un ogre stellaire, il a besoin qu'on l'alimente. Quoi.
Ah, il a besoin qu'on l'alimente, sinon il n'est là, présent que par sa gravité, et on ne peut le voir que par éventuellement les distorsions qu'il donne sur la lumière qui viendrait de derrière, donc mirage gravitationnel, etc. Et puis, les perturbations dynamiques éventuellement d'étoiles qui sont au voisinage, qui n'auraient pas des mouvements ordinaires.
Voilà, donc vous venez d'entendre les quatre parties de cette interview de Suzy Collin, je le rappelle, réalisée le 26 janvier dernier, le vendredi 26 janvier, à l'occasion de sa conférence qu'elle donne au Muséum d'Histoire Naturelle dans le cadre de la Semaine de l'Astronomie, la 11e semaine organisée par la Société d'Astronomie de Nantes. Donc là, on a fait venir donc un aréopage d'astronomes éminents, hein, comme d'habitude, dont Suzy Collin, astrophysicienne, spécialiste des quasars, ou des quasars, comme dit notre ami Gaël. Il va pouvoir s'en donner à cœur joie. Alors dans cette dernière partie, vous avez entendu donc cette généalogie des trous noirs un petit peu, non, même pas.
Oui, enfin on reviendra après là-dessus, mais voilà. C'est vrai que comme plus on observe loin dans l'univers, plus on remonte dans le temps.
Donc on a
on observe les galaxies, les ancêtres de nos galaxies.
On observe les différents stades en fait.
Exactement. Stade d'évolution. Donc on va pouvoir un petit peu commenter ça juste après.
Voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, mon cher Stéphane? Non. Alors, ce qu'on va vous proposer, c'est tout de suite après notre prochaine pause musicale, un petit débat autour de ces histoires de trous noirs, de galaxies aussi. On a beaucoup parlé de galaxies. On a dit qu'il y avait des galaxies spirales. On va voir un peu tout ce qu'il y a, hein, ce bestiaire un peu cosmique qu'on va vous esquisser et puis essayer d'approfondir un petit peu dans la mesure de nos moyens, ce sujet qui est quand même assez difficile, hein, vous l'avez un peu perdu. Cela dit, donc, nous revenons à notre sujet, les fameux trous noirs. Alors, c'est un sujet qui a toujours beaucoup intrigué les gens, hein, parce que d'abord, c'est un objet qui est inquiétant. On se demande un peu, on présente ça d'ailleurs comme des gigantesques aspirateurs cosmiques. Alors, ça peut être ça, ça peut ne pas être ça. Il y a des micro-trous noirs, mais ça, c'est plutôt des objets un peu de Hawking. Alors, on va pas tout mélanger. Alors,
nous, on s'intéresse à des trous noirs immenses, plus gros.
Déjà, la conférence, et c'est un peu là notre sujet, le thème, ça portait sur les trous noirs, disons, géants, au cœur des galaxies. Alors, pourquoi au cœur des galaxies? Alors, on rappelle quand même ce que c'est des galaxies, et on va peut-être donner une idée, hein, Gaël, des différents types de galaxies. D'abord, c'est quoi une galaxie? Parce que on voit ce mot sur des aspirateurs, hein, mais on sait pas pour autant ce que c'est. Alors, ce sont des ensembles d'étoiles, mais tu vas peut-être le rappeler, et puis des différentes catégories. Et puis pourquoi on s'intéresse à ces objets, et puis bon, qu'est-ce que c'est les quasars, etc.
Oui, comme on l'a dit juste avant la pause musicale, en effet, en observant de plus en plus loin, avec des télescopes de plus en plus puissants, on s'est rendu compte qu'on pouvait remonter en fait aux frontières de l'univers, mais aussi aux frontières du temps, aux frontières de l'espace et du temps.
Voilà,
peu après la naissance de l'univers.
L'univers préhistorique, on pourrait dire, la préhistoire de l'univers.
La préhistoire de l'univers. Là, à l'époque où on ne pouvait rencontrer d'étoiles en tant que telles, où les astres élémentaires n'étaient que de la taille du système solaire, des galaxies très 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 concentrées qu'on appelait des quasars, quasi-stellaires, presque des étoiles, mais tellement grosses et tellement actives que après des milliards d'années, on peut en distinguer encore la lumière. Et c'est à peu près à 15 milliards d'années-lumière, voilà.
Mais donc, ce sont des fossiles de...
Exactement.
Des fossiles du cosmos.
Voilà. Ce sont des fossiles du cosmos. Et peu à peu, on se rend compte que, en observant dans la proximité de la Voie lactée, notre galaxie, donc, très très proche dans le temps aussi, on se rend compte que les galaxies actuelles sont beaucoup moins actives. Il y a des étoiles, elles sont soit spirales, soit diluées sous forme d'une ellipse, les galaxies elliptiques, et on se rend compte qu'on a plusieurs types de galaxies et que l'énergie se trouve plus diluée dans l'espace. Donc finalement, avec l'expansion de l'univers, on peut s'imaginer aussi une dilution de l'énergie, une répartition, une structure de l'univers.
En gros, elles ont plus de place, donc elles prennent de la place.
Voilà, exactement. Ça, c'est un peu plus discipliné. Bon. Et à côté de ça, il faut être prudent quand même. Suzy Collin, je me rappelle, dans l'interview, le dit. Cette généalogie de l'univers n'a pas toute sa continuité. Hein. On ne passe pas forcément des quasars en tant que tels très actifs aux galaxies spirales. Il y a vraiment des étapes intermédiaires, un petit peu comme la paléontologie s'intéresse à l'évolution des espèces, etc.
Oui, il y a des phases d'évolution plus rapides que d'autres. Hein. Donc, il y a des... Voilà. Des chaînons, en fait, qui sont manquants tout simplement parce qu'ils ont duré très peu de temps. Et alors là, effectivement, ces galaxies, en fait, ces quasars, ce sont forcément des galaxies anciennes. Est-ce qu'il n'y a pas des galaxies actuelles qui peuvent être très actives, qui ont un noyau très actif?
C'est vrai que il serait réducteur de dire que l'énergie est vraiment très très diluée dans l'espace actuel qu'on connaît. Il y a des galaxies encore à noyau actif qu'on appelle des galaxies à lobe radio, c'est-à-dire qu'on ne peut observer que dans une certaine longueur d'onde qu'on ne peut pas distinguer à l'œil nu.
C'est lobe story, ça.
Exactement. Et d'ailleurs, ça fait des très très belles couleurs, c'est l'Aube Radio. Et ça s'étend à des centaines de millions d'années-lumière. Donc tout ça, bon, ce sont des chiffres quelconques, mais tout ça pour dire que autant à l'époque des quasars, il s'agissait de galaxies qui étaient uniformément très énergétiques, autant dans le cas des galaxies actuelles, c'est un centre très énergétique qui émet de part et d'autre du disque des particules à quasiment la vitesse de la lumière.
Mais moi, je vais faire mon candide, mon cher Gaël, pour savoir pourquoi est-ce que l'univers...
C'est pour faire croire qu'il connaît, alors qu'il pose la question réellement. Hein.
C'est en fait, pourquoi l'univers n'est-il pas homogène? Pourquoi y a-t-il des grumeaux? Puisqu'on pourrait en fait comparer ces galaxies à des grumeaux dans une pâte à crêpes. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des condensations de choses comme ça dans des endroits? Et pourquoi l'univers ne s'est pas mis de façon beaucoup plus homogène?
Alors, tout ça, c'est lié, à mon avis, à la... La gravitation, d'une part. Et il y avait ce qu'on appelle le paradoxe d'Olbers, le paradoxe de la nuit noire, qui...
Pourquoi est-ce qu'on voit pas, en fait...
voilà, qu'on n'a pas une lumière uniforme. Que...
Parce que dans quelques directions qu'on regarde, on doit statistiquement rencontrer la lumière d'une étoile. Donc le ciel devait être blanc, c'est
exactement. Quelle que soit la direction pointée, on devrait rencontrer une étoile. Mais la preuve que la nuit est noire, c'est qu'à certains endroits, il y a des absences de matière, et à d'autres endroits, enfin du moins de matière lumineuse, parce qu'on va pouvoir y venir après, il y a aussi ce qu'on appelle la matière noire. Mais la matière lumineuse en tant que telle, si on observe qu'à certains endroits c'est très noir, puis à d'autres endroits il y a des étoiles et puis des taches lumineuses, nébuleuses, etc., ça prouve que l'univers est structuré, qu'il n'est pas homogène.
Alors là on peut dire un mot aussi sur la structure, l'autostructuration de toute chose d'ailleurs, pas seulement l'univers, enfin, si tant est que l'univers contient tout, effectivement l'univers. Laurent Nautal là-dessus a beaucoup de choses à dire, hein, vous le savez, puisque d'ailleurs de plus en plus actuellement en science on se rend compte que tout va vers l'hétérogène et non pas vers l'homogène. Et ça, cette vision que les systèmes s'équilibrent et deviennent de plus en plus homogènes, c'est une vision thermodynamique, réductrice, c'est un peu primaire, c'est un peu la vision, la répartition de la chaleur au siècle dernier, c'est né des histoires de machines à vapeur, hein, théorie de Carnot, deuxième principe, etc. Maintenant, on sait qu'en réalité, toute matière a plutôt tendance à tendre vers la formation spontanée de grumeaux, en quelque sorte, parce qu'il y a des déséquilibres locaux entre les flux d'énergie. Et donc il y a des générations spontanées de matière, c'est ce que Nautal appelle des géodésiques de l'espace-temps.
Hein. Donc en fait, ce qui serait générateur, ce serait l'état hors équilibre, non pas l'état d'équilibre.
Non, il n'est pas, il est équilibré, mais il est équilibré avec grumeaux. C'est un peu bon, on va rencontrer ça aussi, oui. Parce que c'est parce que la vie c'est ça en fait, hein. Ce sont des grumeaux de la matière.
Pour rester un petit peu dans cette question de l'existence de la matière à tel endroit ou à tel autre endroit, on a évoqué la matière noire. Est-ce qu'on peut peut-être préciser dans le cadre de l'étude des galaxies comment on peut mettre en évidence la matière noire?
Je pense qu'il faut déjà distinguer matière noire, trou noir, parce qu'il y a du noir quand même là-dedans. Matière noire, trou noir.
Bah, les trous noirs, c'est une partie de la matière noire. C'est une partie de la matière invisible, en
alors,
fait. Hein. Mais ça va plus loin que les trous noirs, la matière invisible.
A priori, on ne sait où se trouve que 10% de la matière, et il y a 90% de la matière qui nous manque. Donc on a invoqué la matière noire, qui serait peut-être, alors, bon, moi d'après...
Elle nous manque pourquoi?
Elle nous manque parce qu'on ne l'a pas détectée.
Ouais. Les planètes, par exemple?
Alors, les planètes extrasolaires.
Les planètes extrasolaires, on ne les voit pas. Donc c'est de la matière noire.
Des planètes aussi qu'on a appelées des planètes flottantes, c'est-à-dire qui seraient seules. Donc ça, c'est un peu étonnant. Des naines brunes aussi, qui seraient trop faibles pour être détectées.
C'est des petites étoiles, trop faibles pour s'allumer. Ouais. En fait.
Mais a priori, même en ajoutant toute cette matière noire, on n'arrive pas quand même à combler et à voir quand même la totalité de la masse de l'univers. Donc,
on peut peut-être situer aussi cette matière noire dans le cadre d'une galaxie. Il faut s'imaginer en fait une galaxie spirale comme un CD 33 tours, comme un disque 33 tours, un disque vinyle. Je pense que la partie centrale qui est blanche, c'est celle qu'on voit. Faut imaginer, donc on part du centre du trou noir, et puis tout ce qui est gravé autour, tout ce qui est noir, ce serait cette matière noire qui continuerait à s'enrouler autour. Donc c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg que l'on voit, et la partie immergée c'est cette matière noire qui finalement s'étend encore plus loin de toutes les images de galaxies spirales que l'on a.
Alors il y aurait aussi une autre hypothèse de matière noire, si on parle un petit peu de ça, ce serait l'antimatière. Alors bon, je ne suis pas tellement spécialiste de l'antimatière, mais je ne sais pas si vous pouvez en parler.
Là, on rentre, ouais, c'est vrai, dans une autre physique qui s'intéresse vraiment
donc
à ça.
C'est un peu exotique.
La physique des particules qui étudie sur Terre la génération de particules, effectivement. Bon. Mais là, on rentre dans le microscopique pour expliquer le macroscopique.
On rentre aussi, choses délicates. Oui, puis dans un domaine de la physique qui est encore, non pas sujet à polémique, hein, c'est pas ça, c'est que
pour comprendre ça, on peut pas se l'imaginer d'une façon intuitive, hein, comme nous voyons des choses de tous les jours. Je crois que c'est vraiment un domaine que pour l'expliquer, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. D'ailleurs, nous autres, on a besoin aussi d'y voir un peu plus clair, si je puis dire, dans cette matière noire. On vous l'expliquera un jour.
Alors, l'autre origine, rapidement, de cette matière noire viendrait aussi de ces galaxies actives que l'on a évoquées tout à l'heure, ces galaxies actives actuelles, qui sont des jets de matière, comme ça, qui jettent en fait des particules, par exemple les électrons qui tournent autour des atomes, qui constituent toute la matière, à la vitesse de la lumière, et qui créent ces lobes radio. Et une fois que ces particules, donc, qui sont émises abondamment par le centre de la galaxie, une fois qu'elles sont émises, elles disparaissent dans l'espace, et ça crée une sorte de plasma, très très chaud. Et ce qui fait que dans certaines régions de l'espace vides de matière lumineuse, parce qu'on n'en a pas observé dans tel domaine de longueur d'onde, quand on observe en infrarouge, on observe de puissantes émissions. Et en fait, il s'avère que à telle émission, à telle intensité d'émission d'infrarouge correspond telle température. Et dans certaines régions de l'univers, eh bien, lorsqu'on sort d'une galaxie spirale, il fait beaucoup plus chaud à l'extérieur. On atteint les centaines de millions de degrés Kelvin. Ça, c'est une théorie de Jean-Pierre Luminet qui est évoquée dans l'Atlas de l'astronomie. Et actuellement, bon, c'est très très ambitieux comme explication, mais ça explique aussi l'origine de la matière noire. Ces jets de matière, c'est, en fait, on peut comparer ces galaxies à une très très grande échelle à des comètes dans des amas de galaxies qui se baladeraient et qui en fait zigzagueraient entre les galaxies tranquilles comme la nôtre au cours des centaines de millions d'années et qui comme ça se dilueraient et laisseraient un plasma très très chaud autour des galaxies normales entre guillemets.
Moi j'aimerais en fait dire quelque chose qui me vient à l'esprit, ce serait la richesse d'un geste qui est la détection du mouvement des étoiles, qui est quelque chose en fait assez difficile, c'est enfin du mouvement des étoiles ou des planètes. C'est en détectant des perturbations de planètes, par exemple, qu'on a réussi à trouver une planète comme Neptune, ou même Pluton par la suite. C'est en faisant ça, en détectant des mouvements d'étoiles, qu'on est arrivé à trouver des planètes extrasolaires. Et c'est en détectant des mouvements d'étoiles aussi qu'on arrive à trouver la présence d'un trou noir ou de quelque chose, enfin d'autre quoi. Donc moi, je suis vraiment fasciné par ça en fait. Trouver des mouvements d'étoiles ou des mouvements de planètes et se dire tiens, il y a quelque chose à côté.
Et on l'applique justement.
C'est l'air d'être un geste vraiment permanent.
Oui.
Encore qu'il n'y a pas que les mouvements qui soient perturbés, hein, il y a un certain nombre de paramètres autres. Hein, il peut y avoir l'énergie émise qui est anormale ou des choses comme ça. Hein. Donc il y a beaucoup de moyens. Juste pour Pluton, c'est par comparaison tout bêtement de photographie. Hein. On a vu qu'il y avait une étoile qui bougeait plus que les autres anormalement, donc elle devait être très proche. En fait, c'est une planète en 1930 par là. Il est mort d'ailleurs, Monsieur Tombaugh, je ne sais pas comment il s'appelait, qui a découvert Pluton, qui a passé le restant de sa vie à signer des autographes. Voilà, donc je crois que nous allons clore ce débat, parce que nous...
Il y aurait tant de choses à dire.
Mais voilà, exactement. Mais justement, on va en réserver pour d'autres émissions. Hein.
J'espère bien.
Nous, on ne clôture pas un débat, on le clôt. Hein. On l'a comme d'habitude. Hein. Eh bien voilà, merci à Stéphane et à Gaël. Rapidement, donc nous allons passer à une autre rubrique. Cette fois-ci, on va se reposer un peu l'esprit, on va repasser à des nouvelles, mais cette fois-ci, les nouvelles du monde avec les actualités astronomiques, avec Fabrice Dubreuil. Mon cher Fabrice, voilà, on s'en envoie. Hein. Alors, tu vas nous dire tout ce qui s'est passé. Actualité pas très riche en ce moment. Hein. Ça joue au foot là-haut entre les étoiles avec des. Si joue avec des trous noirs, ils vont pas voir le ballon. Alors, là, c'est embêtant. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon cher Fabrice?
Je dirais qu'ils jouent pas franchement au foot, mais plutôt à cache-cache. Mais je vais raconter pourquoi. Donc ce mois-ci, donc, comme tu as dit, pas grand-chose comme actualité. Pour une fois, je n'ai pas eu besoin de faire un choix dans tous les sujets, de dire j'ai que 5 minutes. Non, j'avais le temps. Essentiellement astronautique, l'actualité ce mois-ci, c'est avec un grand sujet, le séjour de Denis Tito à bord de l'ISS. Tout le monde entier en a parlé.
C'est l'oft story de l'espace.
Oh, hein. C'est même mieux que ça, parce que ça coûte plus cher. Parce que vous avez sans doute tous entendu que Denis Tito...
Est-ce qu'on va voter pour qu'il s'en aille de la station?
Et déjà parti. Et revenu.
Ah ben voilà.
Mais quand même, lui, pour y aller, a quand même payé 20 millions de dollars. ça fait quand même un peu cher la semaine, hein. Même voyage et pension complète, hein. Ça fait quand même très cher. Donc une semaine à bord de l'ISS, 20 millions de dollars. Il faut quand même rajouter que pour y aller, il lui a fallu 2 ans d'entraînement avant pour se préparer à la violence du décollage et l'atterrissage. Parce que quand on s'envoie en l'air, bon de le dire, à bord de l'ISS...
À 2 millions et demi de dollars par jour.
Le choc au décollage est quelque peu violent. Et en plus, il a fallu qu'il se batte un peu avec la NASA, puisqu'au dernier moment, la NASA a dit, moi, nous, on ne veut pas de vous là-haut, vous êtes un danger public, la mission à laquelle vous allez est menacée parce que vous y êtes, on ne veut pas que vous y alliez. Enfin bon. Denis Tito est allé à bord de l'ISS du 27 avril au 6 mai. Il est revenu le 6 mai dans la journée, sur Terre. Il faut savoir que pour aller sur l'ISS, il faut 2 jours. Pour revenir, il faut 3 heures. C'est vraiment... On n'est pas dans les mêmes échelles. Juste aussi signaler que pour cette occasion, il y a eu un petit retard dans le lancement. Il aurait pu y avoir un retard parce que sur l'ISS, pendant que Denis Tito attendait pour décoller, il y avait une navette spatiale Endeavour qui était arrimée à la station. Et il faut savoir que tant qu'il y a une navette d'arrimée, on ne peut pas accrocher un vaisseau Soyouz. Pour l'instant, on ne peut pas encore le faire. Sur Mir, on pouvait, on ne peut pas sur l'ISS pour l'instant. On pourra dans quelques temps. Pourquoi est-ce qu'Endeavour était en orbite accrochée à la station? Parce qu'elle avait décollé le 19 avril pour aller installer le nouveau bras télémanipulateur de la station qui servira entre autres à récupérer les prochains modules, à les déplacer, à les fixer là où ils doivent être sur la station, sur la structure. Enfin bon, ça a quand même beaucoup aidé parce que pour l'instant, pour fixer un module, ils prenaient le bras de la navette qui n'est pas toujours très efficace pour ce type de travaux. Et donc ça a permis d'avoir un petit événement parce que le 29 avril, on avait dans l'espace à la fois les 7 astronautes de la navette, les 3 membres d'équipage de l'ISS et les 3 passagers du Soyouz qui avaient décollé quelques jours avant. Donc 13 personnes dans l'espace autour de nous. Ça veut dire qu'on a rarement
eu en l'air. Donc vous voyez, Lost Story totalement dépassé. Hein.
Donc c'était vraiment
du pipi de chat. Hein.
C'était vraiment le jeu. Pousse-toi de là que je m'y mette. Quoi. C'est, la navette est partie. Quelques heures plus tard, ça s'est arrivé. Le Soyouz est arrivé. Je profite juste un petit peu là. En parlant de 13 personnes dans l'espace, pour rappeler que ce mois-ci, il y a eu quand même, et cette année surtout, il va y avoir beaucoup d'événements à célébrer en astronautique. On a déjà célébré 40 ans de Gagarin, qui, il y a 40 ans de ça, est allé pour le premier vol habité par un être humain, en orbite autour de la Terre. Il y a 30 ans de ça, on a mis la première station spatiale en orbite, c'était Salyut. Il y a 20 ans de ça, Columbia, la navette spatiale, décollait pour la première fois. Tout ça pour rappeler que ça fait pas si longtemps qu'on envoie des hommes dans l'espace autour de la Terre et qu'à chaque fois, il faut qu'on se souvienne que c'est une véritable odyssée, un véritable défi qui est lancé à chaque fois parce que bon, ils décollent ni plus ni moins sur des vraies bombes. Hein. D'un autre côté, je voudrais parler de 2-3 points là qui ponctuent l'astronautique et l'actualité, qui sont un petit peu moins drôles, et entre autres par rapport à la sonde Stardust. Stardust, c'est une sonde qui a été envoyée pour photographier et filmer la comète Wild. Et Stardust est en train de malheureusement très bien mériter son nom de poussière d'étoiles, puisqu'on ne sait pas pourquoi, mais doucement mais sûrement, il y a une sorte de pellicule grasse et poussiéreuse qui est en train de s'installer sur la caméra de la sonde. Et il y a de grandes chances pour quand la sonde arrive à destination, la sonde soit incapable de filmer ce qu'elle est prévue pour faire. C'est pas pourquoi, il n'y a rien à faire, parce que justement, on ne peut pas nettoyer les carreaux, on ne peut pas envoyer...
Il n'y a pas d'essuie-glace.
Il n'y a rien de prévu, on ne sait pas. Il
n'y a pas de balayette à poussière.
Rien.
Eh bien, c'est du joli.
Ça n'a pas été prévu.
Des millions de dollars.
Je ne dirais pas avoir. Qui a conçu la sonde.
Bah, c'est sûrement pas nous. Hein.
Non.
Ah, oui. C'est Bill Gates.
À peu près, oui. C'est pas Windows qui pilote, mais c'est pas loin. À ce sujet, il faudrait saluer l'arrivée d'un nouveau grand dans l'histoire de l'astronautique. L'Inde, en plus d'être un pays qui est un pays continent, l'Inde vient de réussir une première, puisque après 10 ans de recherche...
Ils ont envoyé une vache sacrée.
Non. Ils ont mis en orbite un satellite géostationnaire avec leur propre fusée qu'ils ont développé eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont maintenant un lanceur capable d'envoyer un satellite en orbite géostationnaire. De ce côté, le Japon, lui, va un peu tenter le tout pour le tout l'été prochain, en lançant la fusée H2A, puisque soit elle fonctionne et tout va bien pour eux, soit elle ne fonctionne pas et jamais ils pourront rattraper, je dirais, ils ne pourront plus jamais rivaliser avec Ariane 5, puisque là, vraiment, ils sont rendus, c'est leur dernière carte qu'ils jouent pour essayer de rattraper le retard qu'ils ont pris par rapport à l'Ariane 5 européenne.
H2A.
H2A, oui. H2A, je ne sais même pas ce que ça veut dire, c'est du japonais, je ne parle pas japonais couramment.
T'as mal lu, t'as lu à l'envers. C'est H2A, en fait. Quand tu lis dans l'autre sens.
Oui, c'est ça, peut-être. Je terminerai les actus par deux petites nouvelles. Alors la première, c'est pas très drôle. Je dirais même que c'est un véritable drame pour moi, pour vos chroniqueurs d'actu astro.
Ah oui, oui.
C'est la disparition de l'internet du site Geoman. Geoman a cessé d'exister le 5 mai dernier. Et pour vous donner une idée, Geoman, c'est un peu comme si on m'enlevait l'AFP, j'ai plus rien, j'ai plus de
pour c'est trouver les sources. AFP à nous.
C'est l'AFP.
C'est pour ça que tu crois qu'il n'y a pas de nouvelles, en fait.
Mais il y en a, si. Non, mais c'est vrai que quand on regarde sur avant, bon, quand je, pour vous donner une idée, quand je regardais sur Geoman, j'avais 16 pages d'information. Ce mois-ci, il n'y a que 3 pages parce qu'il n'y a plus rien qui est édité. Donc il faut un peu piocher n'importe où. Et...
c'est inimaginable.
C'est comme si on n'avait plus d'AFP, oui, c'est ça.
Il y a trop de sport.
Voilà. Et bon, la deuxième info, je voulais quand même la garder pour la fin et c'était un petit plaisir. Elle est beaucoup plus proche de nous. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que, bon, Kegarin, ça fait 40 ans. La première station, ça fait 30 ans. Et bien là, San aussi, ça fait 30 ans.
Oh, comme c'est gentil. Oui, c'est vrai.
Et donc, eh bien, je ne peux pas résister en concluant que bon, nous allons fêter dignement nos 30 ans ce samedi qui vient. Et donc, je voulais terminer en nous souhaitant à tous un très bon et heureux anniversaire.
Yes. Bon anniversaire à la San, d'ailleurs, qui est née. Voilà. Histoire extrêmement fulgurante en cette année 1971, puisque la première réunion publique a lieu le 26 mai, donc on s'approche. Hein.
Le 26 mai, une création le 5 juin.
Oh là, approbation des statuts le 14 juin, dépôt le 5 août, journal officiel le 21 août, et puis on vous racontera tout ça en détail. Et la SAN, plutôt, c'est une renaissance, puisque c'est une réactivation sans le savoir d'une société astronomique de Nantes qui avait vécu telle une comète fulgurante à la fin du siècle dernier. Ça aussi, c'est passionnant, parce que Nantes fut une des premières villes de France à avoir une société astronomique d'amateurs. Il y en a eu deux ou trois en France, c'est tout, avec comme président d'honneur Camille Flammarion. Alors on est quand même, on a les lettres de noblesse, comme on dit.
Mais je crois qu'on a une émission de prévue à la fin du mois pour raconter tout ça.
Oui, voilà. Donc on va vous le raconter par le menu. D'ailleurs, nous participons au fameux colloque qu'on vous a annoncé sur les observatoires nantais, où on va raconter l'histoire, enfin ce qu'on a pu glaner de l'histoire d'un observatoire qui était à Saint-Donatien. Et nous aurons aussi, nous parlerons un petit peu de l'histoire de la société d'astronomie de Nantes. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Non, pas tout à fait. On a encore quelques minutes pour débattre hein, de diverses choses qu'on aurait oublié de dire. On s'approche quand même. Hein. Donc on vous a parlé de galaxies, beaucoup, de trous noirs, de matière noire. C'est un sujet qui est loin d'être épuisé, puisque cette matière qui nous entoure, vous le savez, depuis un siècle à peu près, a beaucoup apporté sa moisson de faits nouveaux. Il y a eu l'histoire, effectivement, cette histoire qui a été reconstituée, qui a donné cette hypothèse faramineuse, ou plutôt gigantesque, du Big Bang, qui a qui suscite beaucoup d'interrogations, si on peut dire, hein, puisque pour l'instant, on a quelques résultats qui semblent converger vers cette histoire un petit peu mythique. Mais comment ça s'est passé? Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un grand changement, peut-être il y a 15 milliards d'années, et que de là serait issu le monde actuel tel qu'on le connaît, les galaxies, avec cette expansion, etc. Alors, avez-vous quelque chose à ajouter, mes chers amis, Stéphane, Gaël?
Ce serait trop court, là, mais...
Moi, je voulais juste demander à Fabrice s'il n'avait pas glané une info sur un astéroïde qui nous menace à 5 millions de kilomètres. En ce moment.
À celle-là, non, je ne l'ai pas glanée. Elle est peut-être... Faut que je la vérifie. J'en parlerai. Des astéroïdes qui nous menacent, bon, on pourrait faire Armageddon tous les mois. Il y en a à peu près tous les mois qui passent. Mais c'est vrai qu'ils sont surveillés de plus en plus maintenant parce qu'il y a eu un réseau qui a été mis en place par les Anglais, entre autres, parce qu'ils prennent ça très au sérieux, le fait que, bon, c'est vrai que régulièrement, il y a des astéroïdes qui passent assez près de la Terre. Mais bon, enfin, assez près, c'est quand même plus loin que la distance de la Lune.
Celui-là, il va passer à 5 millions de kilomètres.
5 millions de kilomètres, c'est loin, sans être loin. Mais bon, rappelons quand même
que... C'est 10 fois la distance de la Lune.
Voilà, la Lune est à 300 000 kilomètres, elle ne nous tombe pas dessus tous les jours, donc bon, il n'y a pas trop de risques à avoir.
Elle essaye pourtant.
Voilà, je vais vous rappeler quelques informations hein, qu'il ne faut pas oublier. Donc samedi 2 juin, venez nous rejoindre derrière le planétarium, Square Moisan, pour l'observation de la Lune dans le cadre de l'exposition météorite que nous avons en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle, et nous serons avec nos amis du Planétarium. Donc si tout va bien, ça fait la troisième, les deux premières, ben, il a fait très beau la veille là, et puis paf,
ce non, mais là, jour c'est parti là.
Oui, voilà, on va être optimiste. Ensuite, n'oubliez pas la conférence d'André Braic le mercredi 6 juin à 21h à la salle Bretagne. Alors, ça va être une merveilleuse, gigantesque conférence. Ce sera sur les enfants du soleil, c'est-à-dire les planètes et l'origine de la vie dans le système solaire.
Et nous.
Par un des grands spécialistes. Et nous.
Et nous, les enfants du soleil.
Nous aussi, hein, nous poussières d'étoiles.
C'est un mercredi, c'est ça ?
C'est un mercredi soir, oui, voilà. Et bien entendu, si vous voulez des informations, alors vous pouvez venir sur notre site internet, hein, www.san-fr.com. Vous allez voir, découvrir tout notre agenda et tout ce qui va se passer, avec des liens sur les grands observatoires, etc. Donc je vous rappelle aussi notre prochaine émission qui aura lieu dans 15 jours maintenant, c'est-à-dire le lundi, que je prenne mon agenda, qui va
28.
Être 28 mai, merci, hein, à la même heure, en direct de ce studio d'Alternante. Il me reste à remercier tous ceux qui ont contribué à cette émission. Alors j'ai ma petite feuille, avec Pierre Simoneau qui nous a parlé du ciel du mois, nos amis Gaël Vincent, Stéphane Lega, moi-même pour parler des trous noirs et de la conférence de Suzy Collin, enfin de cette interview, Fabrice Dubreuil pour les actus astro,
Serge Gainsbourg,
Johnny Hallyday, que nous remercions pour leur participation à Pulsan, évidemment, et puis à la régie également. Alors, je remercie beaucoup Frédéric Cavagnier, et j'ai un trou de mémoire pour notre deuxième grand technicien. Eh bien, voilà. Eh bien, tu le dis au micro, là.
Bah, c'est Vincent.
Eh bien, c'est Vincent. Voilà, très bien. Merci de nous avoir écoutés. Vous voyez que c'est en direct, hein, ça se voit, ça s'entend. Et quelquefois, c'est bien, quelquefois, c'est moins bien. Nous vous donnons donc rendez-vous dans 2 semaines, je ne dis pas 15 jours, je dis dans 14 jours, car à la SAN, nous sommes précis. Ça y est, j'ai encore oublié le proverbe. Enfin, on va dire, à la SAN, faites comme d'habitude, faites comme ici, soyez précis. Voilà.
Bravo.
Merci à tous. Au revoir.